Imaginez, voilà, quelqu'un, vous rencontrez quelqu'un. De quoi parle 1 Timothée chapitre 1? Est-ce que vous avez ça en tête? Ou est-ce que c'est, oh, c'est loin, c'est, vous avez déjà oublié tout ça? Allez-y, soyez courageux ou courageuse. Oui. Alors, essayez de me faire une phrase. Par exemple, imaginez, je connais rien de tout ça, novice. Vous voulez m'expliquer de quoi est-ce que ça parle. Donc, le plus simplement possible, mais voilà, en résumant en une, deux ou trois phrases, s'il faut. Est-ce que quelqu'un Ouais. C'est vrai, on pourrait dire ça. Hein. L'apôtre Paul montre que c'est une preuve d'amour de ne pas laisser la fausse doctrine se répandre. Oui, on avait vu ça. Autre chose qui pourrait résumer encore, peut-être quelqu'un a autre chose?
C'est la mise en garde.
Oui.
Contre les fausses doctrines, c'est pas ça?
Oui, c'est aussi ça. Oui. C'est une mise en garde, bien sûr, c'est ça. Hein. Mise en garde contre les fausses doctrines. Il y a quelque chose que Paul fait d'une manière dans ce passage, qu'il dit. Qu'est-ce qu'il dit? Verset 3, par exemple. L'exhortation, hein? Et puis verset 5, qu'est-ce qu'il dit? Verset 5, le but de cette recommandation. C'est le même mot qu'exhortation ici. Et verset 18.
Du chapitre 5,
c'est ça? Non, chapitre... toujours, on est dans le chapitre 1. Hein? Verset 18. Là... l'instruction, d'autres ont la recommandation, d'autres encore ont le commandement, certainement, non? Verset 18, ok? Donc on voit que Paul donne ici un commandement, c'est sûr. Quel est ce commandement qu'il donne à Timothée? Il lui dit, c'est ce qu'on a déjà dit, hein, de ne pas laisser la fausse doctrine se répandre dans l'église. Donc, autrement dit à Timothée, de ne pas laisser, et pour ne pas laisser la fausse doctrine se répandre, il ne faut pas laisser certaines personnes enseigner dans l'église. Et il lui dit que, ce qu'a souligné Timothée, ce qu'a souligné Charlie tout à l'heure, il dit le but c'est de le faire, le but c'est quoi? C'est l'amour. Hein? Il dit le but de cette recommandation, verset 5, c'est un amour qui vient d'un cœur pur, une bonne conscience et une foi sincère. Et puis il dit, voilà, il y a des gens, ils ont fait quoi? Ils se sont détournés de tout cela et puis ils sont partis dans de vains discours. Et qu'est-ce qu'ils font? Les docteurs, ils ne savent pas ce qu'ils disent, etc. Et ils utilisent mal la loi. Alors il dit quoi? Il dit la loi, elle est bonne. Ce n'est pas que la loi n'est pas bonne, elle est bonne, mais il faut l'utiliser correctement. Il faut l'utiliser correctement. Or, ça veut dire que ces gens-là, ils ne l'utilisent pas correctement. Ils l'utilisent pour faire des généalogies, des fables, etc. Ou des choses de la sorte. C'est ce qu'il dit en substance. Ok? Et puis au verset 12, on avait vu quoi la dernière fois? Il rend grâce à Dieu, il donne son propre témoignage hein, de ce qu'il était et de ce que Dieu a fait dans sa vie. Hein, c'est ce qu'il dit et il rend gloire, verset 17, on avait vu qu'il rend gloire à Dieu. Donc il dit, voilà, je ne dis pas qu'il n'est pas en train de parler des faux docteurs ou des idolâtres ou des gens comme cela, tout ce qu'il décrit entre les versets 10 et 9 et 10. Pour les décrire, mais il dit, voilà, moi aussi, j'étais un pécheur parmi les pécheurs, et Dieu, dans sa grâce, Dieu m'a fait grâce. Donc, ça veut dire que Dieu peut aussi faire grâce. Je te donne un exemple. Si Dieu a fait ça pour moi, il peut aussi le faire pour les autres. Alors, on pourrait dire ici, voilà, c'est ça que Paul dit en substance. Il donne une recommandation à Timothée pour stopper la propagation de la fausse doctrine dans l'église, en empêchant ceux qui enseignent de fausses doctrines d'enseigner, mais il dit que voilà, c'est l'amour qui doit pousser à faire cela, et les gens ne doivent pas utiliser la loi de n'importe quelle manière, il faut l'utiliser de la bonne manière, et la loi elle est faite pour ceux qui, voilà, pour les méchants, les parjures, les parricides, les homosexuels, les débauchés, etc. Il dit tout ça, et il dit, mais moi-même j'étais un homme pécheur, et Dieu m'a fait grâce. Donc ces gens-là, il faut avoir de l'amour à leur égard, les arrêter, et puis certainement ça veut dire prier pour eux, pour que Dieu aussi change leur cœur. Alors on arrive au verset 18, alors je vais lire les versets qui vont nous intéresser aujourd'hui, verset 18, il continue et il dit « La recommandation que je t'adresse, Timothée, mon enfant, selon les prophéties faites précédemment à ton sujet, c'est que d'après elle, tu combattes le bon combat en gardant la foi et une bonne conscience. » Cette conscience, quelques-uns l'ont perdue et ils ont fait naufrage par rapport à la foi. De ce nombre sont Hyménée et Alexandre, que j'ai livré à Satan, afin qu'ils apprennent à ne pas blasphémer. Moi, j'ai une question pour vous. Quelles sont les questions qui vous viennent à l'esprit quand vous lisez ces deux versets, ces deux ou trois versets? Un, deux, trois versets. Vous lisez ça, vous tombez là-dessus? Est-ce qu'il y a des questions qui vous viennent à l'esprit ou vous passez votre chemin?
Comment Paul peut condamner
Oui, peut-être, oui, peut-être. Oui, ça peut être une question, très bien. Est-ce qu'il y en a d'autres? Qu'est-ce que ça veut dire, livré à Satan? Oui. Est-ce qu'on peut perdre la foi? Parce que quelque part, il y a écrit le naufrage, la foi. Voilà, il y a des questions, vous voyez. Faut faire ça, on lit le texte, on dit qu'est-ce que ça veut dire, ça, on passe par son chemin en disant, bon, ça veut dire qu'on n'a pas, il y a des choses, c'est des choses qui accrochent quand même, hein. Naufrage dans le froid, livré à Satan, est-ce que Paul juge, a dit le frère tout à l'heure aussi, est-ce qu'il y a d'autres choses?
Il y a le verbe combattre aussi.
Oui, il y a le verbe combattre, qu'est-ce que ça veut dire de combattre le bon combat? Il n'y a pas autre chose qui vous...
Comment
garder une bonne conscience, très bien. Il n'y a pas autre chose aussi, encore? Il y a quelque chose. Moi, il y a quelque chose qui m'a... C'est les prophéties faites à ton sujet. Il dit, voilà, il y a des prophéties faites à ton sujet. Qu'est-ce que ça veut dire et tout ça? Voilà, donc je vous ai donné en substance un peu ce sur quoi on va essayer, dans le temps qu'on a, de méditer ce soir. Déjà le verset 18, hein, ce que Paul dit, « Le commandement que je t'adresse, Timothée, mon enfant. » Alors, il est où ce commandement? Il est dans ce qui suit ou dans ce qui précède? Ce qui suit, c'est ce qu'on a envie de dire. Mais en fait, il n'y a pas vraiment de commandement dans ce qui suit. Hein? Donc, qu'est-ce qu'il dit dans ce qui suit? Il dit, le commandement que je t'adresse, Timothée mon enfant, c'est que selon les prophéties faites précédemment à ton sujet, c'est que d'après elles tu combattes. Donc, il dit, c'est pas vraiment un commandement qu'il dit. Il dit qu'il y a des prophéties qui ont été faites à ton propos et... Elles impliquent que tu combattes, tu vois. Donc, mais il parle, je crois, de ce qu'il a déjà dit. On est toujours dans la même pensée de ces faux docteurs à qui il faut enseigner, à qui il faut empêcher d'enseigner. C'est à ce commandement de le faire dans l'amour, c'est toujours cela qu'il est en train, je crois, de dire ici. Hein. Alors, comment est-ce que l'apôtre Paul s'adresse ici à Timothée? Qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce qu'il lui dit? Le commandement que je t'adresse, c'est quoi ici? Le mot pour le commandement ici, c'est un mot qui est un mot fort, hein, qu'on utilise dans le domaine militaire. C'est un ordre. C'est pas juste un conseil. Hein? C'est un ordre auquel Timothée doit obéir. Donc c'est ce qu'il a déjà dit auparavant. Hein? Et donc, qu'est-ce qu'on pourrait dire? Qu'est-ce que ça décrit comme... comment on pourrait dire que Paul parle ici, s'il donne un ordre à Timothée? Paul de manière, il parle avec autorité. Autorité. Mais encore, est-ce qu'il n'y a que de l'autorité dans ce qu'il dit?
Affection.
Affection. Donc il y a les deux choses. Hein. Paul parle à la fois avec autorité, mais en même temps avec affection. Donc il y a un équilibre entre ces deux choses ici. Il ne craint pas de perdre l'affection de Timothée en disant, ah, quand même, c'est mon enfant, je vais pas lui parler, je vais pas lui dire ça, je vais lui dire, écoute Timothée. Non, non, il dit, Timothée, voilà comment tu dois agir. Et par ailleurs, on le voit, on voit les textes, mais il donne des ordres à Timothée, il dit, je t'en conjure, prêche, fais ceci, etc., etc. Il est très directif, il utilise son autorité pour parler à Timothée, mais en même temps, il dit qu'il s'adresse à son enfant. Hein. On sent la fibre affective. Et voyez, l'autorité n'empêche pas l'affection. Hein. L'affection n'empêche pas l'autorité. On peut parler avec autorité à quelqu'un que l'on aime. Okay? Et ça, l'un n'empêche pas l'autre. Nous, dans notre manière de faire, parfois, quand on aime, on a tendance à être mielleux un peu et à ne pas oser dire ce qu'il faut dire. Mais la Bible nous encourage, hein, n'est-ce pas, à être ferme quand il le faut, mais à ne jamais manquer d'amour dans ce que nous faisons, ni d'affection dans ce que nous faisons. Et on voit ici un bel équilibre, l'apôtre Paul, il parle à Timothée avec cette affection et en même temps cette autorité. Alors, Comment est-ce que Paul ici encourage donc Timothée? C'est pas un nouveau commandement qu'il lui donne dans cette section, mais il va l'encourager à faire quelque chose. Ok? Il l'encourage à faire quoi? Ce que vous pouvez dire ici. À combattre le bon combat, à ne pas avoir peur, on pourrait dire, de combattre, ne pas avoir, et ce combat-là, on peut supposer, c'est le fait de faire face aux faux enseignants. Il faut pas qu'il manque de courage pour le faire, mais comment est-ce qu'il va l'encourager à le faire ici, d'après ce passage? Qu'est-ce qu'il dit? Regardez le verset 18. Et en s'appuyant sur les prophéties. Alors, oui, est-ce qu'on peut être plus précis que ça? Regarde, il dit, la recommandation que je t'adresse, Timothée, mon enfant, selon les prophéties faites précédemment à ton sujet, c'est que tu combattes le bon combat. Alors, quand il parle des prophéties faites à ton sujet, qu'est-ce qu'il est en train de dire? Ok, c'est les prophéties, mais comment on pourrait le dire? Il l'encourage en lui faisant un rappel de croix ici. De? Oui, on pourrait dire cela.
L'enseignement qu'il a reçu.
Un peu plus. Alors peut-être qu'un autre verset peut nous aider. Si je l'ai noté ici. 1 Timothée 6, verset 12, je crois que c'est bien ça. Je ne sais pas si je l'ai noté. 1 Timothée 6, verset 12. Oui, voilà, par exemple. Il combat le bon combat de la foi, saisit la vie éternelle à laquelle tu as été appelé et pour laquelle tu as fait une belle confession en présence de beaucoup de témoins. Et puis un autre passage encore. 1 Timothée 4, 14. Quelqu'un a ça, 1 Timothée 4, 14? Voilà. Alors, on pourrait dire que Paul, si on garde ça un peu à l'esprit, il fait référence à quoi ici? Il parle de dons que tu as reçus avec prophétie des mains des anciens. Ça ressemble à quoi, ça, un peu? Oui, mais cet événement-là, on pourrait dire, ça, à quoi ça vous fait penser? Oui, voilà, ça pourrait faire penser à ça. Moi, je pense que ça me fait penser un peu à une ordination. Hein. Voilà, les anciens lui ont imposé les mains. C'est un peu le début de son ministère. Donc, c'est l'appel à la vocation, hein. C'est-à-dire l'appel au ministère. Et donc, ce que Paul fait ici, il encourage en faisant quoi? En lui rappelant sa vocation. Il dit, il y a eu des prophéties qui ont été faites à ton sujet, rappelle-toi de cela. Plus tard, il dit, ranime le don que tu as reçu par imposition de mes mains, etc. Donc, il fait appel à... Il lui rappelle sa vocation. On ne sait pas trop de quoi il parle dans ces prophéties-là, parce qu'il ne dit pas exactement de quoi il s'agit. Donc, il n'est pas dit grand-chose. Mais il faut vous rappeler qu'en ce temps-là, il y avait dans l'Église des apôtres et aussi des prophètes, n'est-ce pas? Et qui parlaient sous la direction du Saint-Esprit, et puis pour annoncer un enseignement ou dire quelque chose aussi qui doit arriver. Nous, quand nous pensons à prophétie, à quoi est-ce que nous pensons? Nous pensons toujours à une prédiction. Nous ne pensons pas souvent à une prédication. Nous pensons souvent à une prédiction. Mais la prophétie, c'est quelque chose qui est large, hein, qui est beaucoup plus large que ça. Hein. Donc, bien sûr, il y a cet aspect où les hommes pouvaient dire quelque chose qui devait arriver. Rappelez-vous de Agabus, le prophète Agabus, dans le livre des Actes, qui avait prédit hein, des choses, on va le dire tout à l'heure. Mais aussi, il y a le fait simplement d'enseigner le peuple, hein, recevoir une parole de Dieu pour enseigner le peuple. Donc, c'est tout cela, la prophétie englobe aussi tout cela. Dans ce cas, donc, c'était pas seulement de la prédiction, c'était aussi de la prédication. Et donc, c'est si vous lisez 1 Corinthiens, je vais le lire, ne cherchez pas, 1 Corinthiens 14, versets 3 et 4, L'apôtre Paul disait, quand il parlait dans ce grand chapitre où il parle des dons, rappelez-vous de ça, du parler en langue, etc., et tout ça, et de la prophétie par rapport au parler en langue, il dit, celui qui prophétise, au contraire, parle aux hommes et les édifie, les exhorte, les console, et celui qui parle en langue s'édifie lui-même, mais celui qui prophétise édifie l'Église. Hein. Donc il y a ici, dans la compréhension du ministère prophétique, le fait d'instruire et d'édifier l'Église. C'est pas simplement le fait d'annoncer quelque chose qui va arriver, mais c'est aussi de les enseigner pour les affermir dans la foi. Alors, si on prend, regardez avec moi Actes chapitre 11. Actes chapitre 11, on va regarder deux exemples bibliques. Actes chapitre 11 et au verset 28. Actes chapitre 11 au verset 28, il est dit, en ce temps-là, des prophètes descendirent de Jérusalem. Acte 11, 28. En ce temps-là, c'est bien ça, hein? 27, pardon. En ce temps-là, des prophètes descendirent de Jérusalem à Antioche, et l'un d'eux, nommé Agabus, se leva et annonça par l'Esprit qu'il y aurait une grande famine sur toute la terre. Elle arriva en effet sous Claude, et les disciples résolurent d'envoyer chacun, selon ses moyens, un secours aux frères qui habitaient la Judée. Donc on pourrait, on voit ça ici, Acte 21-10, il y a aussi la même chose, à un moment donné où Agabus aussi vient et puis il parle de l'apôtre Paul, de ce qui va lui arriver quand il va se rendre à Jérusalem. Donc on avait ici des prophètes, on voit qu'il y avait des prophètes qui recevaient une révélation de Dieu et qui pouvaient dire ce qui allait se passer. Et puis le texte dit, et elle arriva en effet, et les choses s'accomplissaient. Mais on peut regarder un autre épisode dans Acte 13, versets 1 et 2. Regardez Acte 13, donc deux pages ou trois pages, je ne sais pas combien c'est, hein, plus loin, ou une page. Hein. Il dit, il y avait dans l'église d'Antioche, il y avait quoi ? Des prophètes et des docteurs. Barnabas, Siméon appelé Niger, Lucius de Cyrène, Manaém qui avait été élevé avec Hérode, le tétrarque, et Saul, donc l'apôtre Paul. Hein. Pendant qu'ils servaient le Seigneur dans leur ministère et qu'ils jeûnaient, le Saint-Esprit dit, mettez-moi à part Barnabas et Saul pour l'œuvre à laquelle je les ai appelés. Et on peut penser que cela, ils n'étaient pas là et puis ils n'ont pas entendu une voix qui sortait de nulle part. Je ne pense pas que ça se soit passé comme ça. Il y avait, la Bible dit, il y avait des prophètes et des docteurs et probablement c'était une parole des prophètes qui étaient là, qui, sous l'inspiration du Saint-Esprit, qui après, ils savaient et ils étaient conscients que c'était poussé par l'Esprit qu'ils parlaient, et qui se sont probablement levés et puis dit, voilà, il faut mettre à part Saul et Barnabas pour une œuvre particulière. Donc c'est ce qu'on peut supposer ici. Donc une telle chose a pu se produire pour Timothée. C'est-à-dire qu'il y avait des prophètes dans l'Église, et puis ils ont eu cette révélation, puisque l'apôtre Paul dit, il y a eu des prophéties faites à ton sujet, et dans lesquelles il a dû être indiqué clairement que ce jeune homme devait être mis à part pour une œuvre particulière que Dieu lui confierait. Et donc Paul l'encourage en lui rappelant cela. Ici. Et Timothée était un homme jeune, un homme timide, et à un moment donné, au 1 Timothée 4:12, il lui dit ceci, il lui dit que personne ne méprise ta jeunesse, mais sois un modèle pour les fidèles en parole, en conduite, en foi, en charité, jusqu'à ce que je vienne, applique-toi à la lecture, à l'exhortation, à l'enseignement, ne néglige pas le don qui est en toi et qui t'a été donné par prophétie, il dit ici, avec l'imposition des mains de l'assemblée des anciens. Vous voyez, il réutilise encore le fait qu'il a été appelé, il a reçu l'imposition des mains par prophétie, etc., et qu'il fallait qu'il considère cela pour être encouragé dans son ministère et ne pas laisser, ne pas voir sa jeunesse comme un handicap. Vous savez, quand vous êtes dans une église, vous êtes jeune, il y a des personnes qui sont là depuis plus longtemps, qui sont plus âgées, et qui disent, c'est pas toi, petit jeune, qui va m'apprendre ce que je dois faire. Je pense que ça existait même à cette époque-là. Et Paul l'encourage. Il lui dit pas, voilà, tu te mets sous tes pieds, puis tu te dresses, et puis tu dis, non. Il dit, tu es un modèle déjà pour les autres. Mais rappelle-toi que tu as été choisi ici par Dieu pour ce ministère-là. Donc le souvenir, on veut dire ici, hein, de l'appel est un encouragement. dans le sens qu'il porte les regards vers celui qui a appelé au ministère. Et Paul dit la même chose à l'église de Colosse, rappelez-vous, on avait étudié ça il y a longtemps, hein, à l'église de Colosse, lorsqu'il dit à l'église, par exemple, prends garde au ministère que tu as reçu dans le Seigneur afin de le bien remplir. Il dit ça ici. Église là, de Colosse, dites à Archip qu'il faut qu'il prenne garde au ministère qu'il a reçu de Dieu. Il rappelle bien que c'est de Dieu qu'il a reçu afin qu'il le remplisse convenablement. Il fait la même chose avec Timothée ici. Donc il dit, Timothée, je veux te dire une chose. Il y a des prophéties qui ont été faites à ton sujet. Rappelle-toi de cela. Rappelle-toi de cela. Et combat donc le bon combat de la foi. Le souvenir donc de l'appel est un encouragement parce qu'il aide à tourner les yeux vers celui qui a appelé. Et on a un exemple de ça dans ce que Paul dit aux Thessaloniciens. Je vous lis le verset. Il dit que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même tout entier et que tout votre être, l'esprit, l'âme et le corps soient conservés irrépréhensibles lors de l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. Puis il ajoute, celui qui vous a appelé est fidèle et c'est lui qui le fera. Donc ça c'est 1 Thessaloniciens chapitre 5 versets 23 et 25. Vous voyez, il dit celui qui vous a appelé est fidèle, c'est lui qui il attire encore le regard vers celui qui appelle, qui a appelé. Et c'est exactement ce qu'il a fait ici avec Timothée. Donc il l'encourage en lui faisant voir, en lui rappelant sa vocation, hein, ou son appel au ministère. Et en faisant tourner les yeux vers Dieu qui l'avait appelé à ce ministère-là. Et puis, on voit aussi dans ce passage, hein, que nous avons lu aujourd'hui, quelles sont les implications de cette vocation qu'il a reçue. Ce que Paul veut souligner, ce ne sont pas les détails de la prophétie, on n'en sait rien, hein, exactement ce qui a été dit, qu'est-ce qu'il a reçu, comment ça a été dit, comment ça s'est passé. Donc ce que Paul fait ici, ce n'est pas tant de souligner les détails de cette prophétie que de lui dire le fait que ces prophéties existent, ça, il a eu cet appel-là, il y a des implications qui sont attachées à cela. Et donc c'est de dire que c'est Dieu qui t'a choisi et que tu ne t'es pas choisi toi-même. Et donc tu ne peux pas reculer devant la tâche aussi difficile soit-elle. Alors, le commandement que je te donne, ne laisse pas la fausse doctrine se propager dans l'Église. Tu as été appelé par Dieu, tu as été placé là par Dieu lui-même. Ce n'est pas toi-même qui t'es autoproclamé. Et donc, tu ne peux pas reculer devant cette tâche. Et donc, il dit, le commandement que je te donne, Timothée, mon enfant, selon les prophéties faites à ton sujet, c'est que d'après elles, d'après ces prophéties-là, tu combattes le bon combat. Voilà. Donc, et on retrouve donc cette exhortation au combat ici, donc ce qu'il doit faire avec en fonction de la prophétie ici, c'est de combattre. Et on retrouve cette exhortation, on a déjà lu dans plusieurs endroits, même dans l'épître à Timothée, hein. 2 Timothée 4, 7, on l'a lu tout à l'heure, hein. 1 Timothée 6, 12, on a lu tout à l'heure, où l'apôtre Paul dit à Timothée, combat le bon combat de la foi et saisis la vie éternelle. Et puis pour lui-même, l'apôtre Paul disait pour lui-même, j'ai combattu le bon combat, j'ai achevé la course et j'ai gardé la foi, hein. De Timothée 4, verset 7. Et donc ici, qu'est-ce qu'il l'appelle à faire ici? Ce combat, c'est quoi exactement? Alors, le mot utilisé pour combattre ici, c'est pareil, fait référence au domaine militaire, aux soldats ou à la guerre. De Timothée 2, 4, par exemple, dit « Il n'est pas de soldat qui s'embarrasse des affaires de la vie ». C'est le même mot qui est utilisé pour combattre et combat ici. Donc, il peut être utilisé pour traduire « soldat » ou pour traduire aussi le combat. Parfois, il fait référence à la guerre même, ce mot-là. C'est le même mot. Hein. En 1 Pierre 2, 22, 11, on lit ceci. « Bien-aimés, je vous exhorte comme étrangers et voyageurs sur la terre à vous abstenir des convoitises charnelles qui font la guerre à l'âme. » Et c'est le même mot ici. Vous voyez, donc le mot, quand il lui dit « combat » ici, ça veut dire que tu es dans une posture militaire, tu dois mener guerre, hein, contre ce qu'il faut combattre. Donc, il utilise ce terme-là, parfois, utilise un terme qui est un terme aussi un peu sportif, hein, donc qui est pour parler de combattre. Donc, si vous lisez dans des versions différentes, le mot qui est utilisé par combat, le bon combat, n'est pas forcément celui qui est utilisé à un autre endroit par combat, le bon combat. Parfois, il utilise le mot lutte, et parfois, il utilise le mot qui est... Donc, lutte, c'est plutôt une métaphore sportive, hein, la lutte gréco-romaine, par exemple, vous vous rappelez de ça. Et puis, parfois, il utilise la métaphore militaire, comme ici, pour souligner, mais avec... à chaque fois le même objectif ici, et pour montrer que la vie chrétienne, dans la vie chrétienne, il y a un combat intense à soutenir. Et la vie chrétienne doit être vue comme un combat, une lutte, et ça, ça transparaît dans beaucoup d'écrits de l'apôtre Paul. On pourrait passer, si vous avez le temps, chercher cela, vous allez voir qu'il y a beaucoup d'endroits où lui-même il parle de son propre combat, mais où aussi il encourage les chrétiens à combattre ici. Et notez une chose ici, comment est-ce que l'apôtre Paul qualifie le combat ici? Est-ce que vous avez fait attention à ça? Qu'est-ce qu'il dit? Regardez le verset encore. Le bon combat. Est-ce qu'il y a des bons combats? Des fois on dit, oh, c'est pas bien de se battre, hein? Faire la guerre, c'est pas bien. Hein? Ça dépend de la cause, c'est ça? Ouais, peut-être. Donc, est-ce qu'il y a des combats qui sont des bons? Ici, le combat que l'on est amené à mener est le bon combat. Le mot qui traduit bon ici, c'est le mot kalos, hein, et c'est un mot qui est traduit par bon, mais ailleurs, il est traduit par excellent. Par exemple, au chapitre 3, verset, on est toujours dans 1 Timothée, là. Regardez chapitre 3, verset 12, par exemple, il est dit, les diacres doivent être maris, j'ai bien choisi, là. 3, verset 1, pardon. Chapitre 3, verset 1. Il dit, cette parole est certaine, si quelqu'un aspire à la charge d'évêque, il désire une œuvre excellente. C'est le même mot, hein, qui traduit aussi bon ici. Parfois, c'est honorable. Chapitre 3, verset 13, il dit, car ceux qui remplissent convenablement leur ministère s'acquièrent un rang honorable. Puis parfois, il traduit par belle, chapitre 6, verset 12, par exemple, où il dit « Combat le bon combat de la foi et saisis la vie éternelle à laquelle tu as été appelé et pour laquelle tu as fait une belle confession. » Donc, vous voyez, c'est quelque chose d'extrêmement noble. Certains traduisent le combat noble, hein, ici. Donc, le chrétien est amené, le croyant, l'apôtre Paul encourage Timothée, mais les chrétiens aussi en général, à combattre le bon combat. Tous les combats ne sont pas des bons combats, hein. Alors, bien, maintenant, on veut nous faire rentrer dans beaucoup de combats, hein. Combat pour le climat, combat pour le pouvoir d'achat, combat pour je sais plus quoi, combat pour la délivrance de l'Algérie, combat pour, il y a plein de choses, plein de manifestations, et on est sollicité pour pouvoir, hein, voilà, avoir position, sauver la planète. Si jamais vous dites quelque chose, ah, vous êtes un horrible personnage, vous voulez pas combattre pour sauver la planète, vous voulez en voiture diesel, etc. Enfin, bref. Il y a beaucoup de combats qui nous sont proposés aujourd'hui. Mais le chrétien ne doit pas oublier qu'il y a ce que Dieu appelle le bon combat. Et celui-là, c'est celui dans lequel on doit être, chacun en tant qu'enfant de Dieu, engagé. Je ne dis pas qu'il faut faire n'importe quoi, c'est pas ce que je dis, mais je dis qu'il faut faire attention à ne pas se laisser embarquer ou enrôler dans n'importe quel combat. Il y a ce combat que l'apôtre appelle ici le bon combat et qui concerne chaque enfant de Dieu, le combat pour la vérité de l'évangile, pour la défense de l'évangile, le combat pour une vie sainte, pour une vie pure, le combat contre le péché, ce sont des combats que nous avons à mener. Et l'apôtre Paul, le combat pour l'unité dans l'Église, l'amour entre les uns et les autres, tout ça sont des combats que nous devons mener. Troisièmement, l'apôtre Paul dit de le faire d'une certaine manière. Qu'est-ce qu'il dit? Regardez ici, chapitre encore 1, verset 1 Timothée chapitre 1, verset 18, il dit « La recommandation que je t'adresse, Timothée, mon enfant, c'est que, selon les prophéties faites précédemment à ton sujet, que d'après elles, tu combattes le bon combat en gardant la foi et une bonne conscience. Et cette conscience, quelques-uns l'ont perdue. » Donc ici, bon, je ne vais pas revenir sur la foi, on en a un peu parlé dimanche, hein, dimanche matin. Mais il dit, voilà, tu dois combattre en gardant la foi. Et je vais ajouter ici, et une bonne conscience. Donc, il y a un lien entre la foi et la bonne conscience. Il y a d'autres versets qui le soulignent. Regardez le verset 5 du chapitre 1. On avait déjà vu cela. Hein. Il dit « Le but de cette recommandation, c'est un amour provenant d'un cœur pur, d'une bonne conscience et d'une foi sincère. » Ces choses sont liées ici. Chapitre 3, verset 9, il dit aussi, verset 8 déjà, « Les diacres aussi doivent être honnêtes, éloignés de la duplicité, des excès du vin, du gain sordide, conservant le mystère de la foi dans une conscience pure. » On a l'impression que voilà, la foi même, elle est placée dans le cadre d'une conscience pure. Donc, il y a un lien qui est établi entre la foi et la conscience, la bonne conscience. Qu'est-ce que la conscience? La foi, la conscience désigne cette faculté à juger soi-même de la valeur de nos actions. D'accord? Ici, lorsque Jésus, on avait vu ça, lorsque Jésus répond à ceux qui accusaient la femme samaritaine, il leur dit quoi? Que celui qui est sans péché jette en premier la pierre. Et la Bible dit que quand ils ont entendu cela, eh bien chacun accusé par leur conscience, ils se sont retirés un à un, depuis le plus âgé jusqu'au dernier. Okay? Donc il ne restait plus personne parce que tous étaient accusés par leur propre conscience. C'est-à-dire qu'il y avait une voix intérieure, quelque chose qui leur disait « Ah non, tu as péché ». Ils ne pouvaient pas se soustraire à cela. Donc la conscience, c'est un peu ce gendarme interne qu'on a qui nous accuse ou parfois nous justifie aussi dans ce que nous faisons. L'apôtre Paul dit en Romains chapitre 2, verset 14, il dit que la conscience peut rendre témoignage et que les pensées peuvent accuser ou défendre tour à tour. C'est ce qu'il dit, je vous lis. Il dit « Quand les païens qui n'ont point la loi font naturellement ce que prescrit la loi, ils sont eux-mêmes... Et eux qui n'ont point de loi, une loi pour eux-mêmes. Ils montrent que l'œuvre de la loi est inscrite dans leur cœur, leur conscience en rendant témoignage, et leur pensée s'accusant ou se défendant tour à tour. » Romains chapitre 2, versets 14 et 15. Et donc, vous voyez, la conscience joue ce rôle-là. Elle va conforter dans une situation où elle va nous dire, quand elle est voilà, bien entretenue, « Non, on fait quelque chose qui est mauvais. » L'apôtre Paul cherchait toujours à faire ce qu'il fait avec une bonne conscience. Il cherchait à avoir un témoignage de sa conscience. Et il ne suffit pas de dire « je vais faire ce qui est droit », mais on peut faire ce qui est droit mal, la mauvaise manière. On peut dire à quelqu'un une vérité, mais on le dit soit pas de la bonne manière, pas au bon moment, etc. On a mal fait une bonne chose, il fallait lui dire cette vérité, mais pas comme ça. Pas sur ce ton-là. Et donc, on peut être accusé par notre conscience. Oui, c'est vrai que j'ai dit la vérité, mais j'aurais pas dû faire ça comme ça. Et la conscience, vous voyez, il suffit pas de faire ce qui est droit ou de faire ce qui est selon la foi. Il faut aussi le faire d'une manière telle que la conscience ne nous accuse pas. Et donc, Paul dit à Timothée ici, tu combats le bon combat. Bien sûr, il faut combattre ces gens dans la foi, mais avec une bonne conscience. Et lui, Paul, cherchait toujours à avoir cette bonne conscience. Écoutez ce qu'il dit en 2 Corinthiens 1, verset 12, il dit « Ce qui fait notre gloire, c'est le témoignage de notre conscience, que nous nous sommes conduits dans le monde, et surtout à votre égard, avec sainteté et pureté devant Dieu, non point avec une sagesse charnelle, mais avec la grâce de Dieu. » On peut faire des choses qui sont vraiment droites, mais on n'a pas cherché à faire dans une bonne manière. Et la conscience peut nous condamner. Donc il dit ici qu'il fait vraiment les choses en cherchant intérieurement la certitude que la manière avec laquelle il a fait les choses, c'était la bonne manière de le faire. Donc la bonne conscience s'allie ainsi à la foi, comme vous pouvez le voir. La conscience a besoin de la foi, mais la foi a besoin aussi de la conscience. Et on voit ici dans ce passage, verset 19, donc on retourne à 1 Timothée 1, verset 19, qu'est-ce qu'il dit? Il dit, tu le fais en gardant la foi, une bonne conscience. Il dit que cette conscience, quelques-uns l'ont perdue et ont fait naufrage par rapport à la foi, ici. Donc, j'ai mis ici que la conscience est c'est un peu un garde-fou de la foi, quelque part. Parce que, bon, on perd la conscience et on fait naufrage dans la foi. La conscience, c'est comme la boussole de la foi. Imaginez un bateau qui perd sa boussole, il va directement au naufrage. Et c'est important de considérer ça. Une conscience perdue, ici, le sens du mot perdu, c'est rejeté, hein, repoussé. C'est-à-dire, la conscience dit des choses, mais on ne l'écoute pas. On repousse, et on repousse, et on repousse. Et quand on agit de cette manière-là, il est presque certain qu'on va directement au naufrage. C'est comme celui qui conduit sa voiture, et puis il y a au tableau de bord, il y a la petite lampe rouge qui s'allume pour dire qu'il n'y a plus d'huile, le gros bouton stop qui clignote, et puis il dit, il continue à rouler. Qu'est-ce qu'il va faire? Au bout d'un moment, il n'y a plus de voiture, hein. Ça va brûler, etc. Et bien, dans la vie chrétienne, c'est exactement la même chose, Paul dit. Il dit, quand la conscience nous dit quelque chose et qu'on la rejette et on pousse, etc., eh bien, on va certainement au naufrage spirituel. Alors, est-ce que le naufrage, ça veut dire ici qu'on a perdu la foi? Qu'on a perdu le salut. Voilà ce que je voulais dire ici. Ils ont fait naufrage dans la foi, ça veut dire, voilà, ils étaient des croyants et puis maintenant, ils ne sont plus des croyants. Certaines personnes utilisent ce passage-là pour dire cela, hein, pour dire que le chrétien peut perdre son salut. Il n'est absolument pas question de cela ici. D'accord ? Parce que, si on regarde plus loin, il dit que le but ici, c'est qu'ils apprennent à ne pas blasphémer. D'accord ? Donc qu'ils puissent être réintégrés, qu'ils reviennent, qu'il y ait une perspective de repentance. Il y a quelque chose de positif dans ce que l'apôtre Paul dit ici. Hein, donc il ne dit pas ici, ce n'est pas du tout un texte à utiliser pour dire que, comme j'ai entendu certains le faire, voilà un exemple de personnes qui étaient au Seigneur et puis maintenant qui ne sont plus au Seigneur parce qu'ils ont fait naufrage dans la foi. Hein. Non, ce n'est pas ça que ça veut dire. Donc, ici. Et donc ce que l'apôtre Paul montre ici, c'est que eh bien, si on ne fait pas attention à développer une bonne conscience, à garder une conscience saine dans ce que l'on fait, eh bien, on va s'écarter de la vraie foi, de l'obéissance à la foi. On va agir n'importe comment, on va dire n'importe quoi, par exemple. Dans un autre passage, il parle de Hyménée et Alexandre. Là, il parle de Philette et Hyménée, mais il parle de Hyménée et Alexandre qui enseignent que la résurrection a déjà eu lieu. Quelque chose comme ça. Dans 2 Timothée, je crois qu'il parle de ça ici. Hein. Et donc, on voit, par rapport à la doctrine saine, eh bien, ils font naufrage hein, par rapport au corpus de foi, ce que l'on doit croire droitement, parce qu'ils ne se laissent pas conduire par une bonne conscience. Bien sûr, ils croient des choses, mais ce n'est plus la vérité. Ils s'écartent de cette vérité. C'est ce que faisaient ces faux enseignants qui étaient aussi dans cette assemblée. Ici. Donc, Paul donne ici un avertissement clair pour nous, je crois, ici. Hein, il est important de soumettre même notre foi à une bonne conscience, à chercher à avoir toujours la conscience qui ne nous condamne pas dans ce que nous faisons. Et c'est quelque chose que Dieu a mis au-dedans de nous, hein, comme un juge indépendant, et tout le monde hein, a cela, et elle intervient pour... C'est une grâce de Dieu d'avoir cela, je vois. Pour nous avertir, attention, ce que tu as dit, tu ne l'as pas bien dit, attention, ce que tu as regardé, ce n'était pas bien, attention, etc. Et ça intervient sans qu'on fasse d'efforts. Si on l'étouffe, eh bien oui, au bout d'un moment, on échoue. Donc. Et puis, je termine avec cela, l'apôtre Paul, un avertissement fort, je crois, là, de deux personnes. Hein. Il parle d'Alexandre et de Hyménée, il dit que j'ai livré à Satan afin qu'ils apprennent à ne pas blasphémer. C'est une expression qui est assez forte, hein. Elle est utilisée deux fois par l'apôtre Paul, je crois, dans 1 Corinthiens 5, et puis ici. Mais dans l'Ancien Testament, par exemple, concernant Job, vous rappelez ce que la Bible dit, il dit que Dieu avait livré Job à Satan. Hein. Je vous lis Job chapitre 2 verset 6, il dit « L'Éternel dit à Satan, voici, je te le livre, seulement épargne sa vie. » Il a mis des limites, mais il a livré à Satan. Hein. Donc on voit que Dieu hein, livre son serviteur, hein, Job qui appelle son serviteur, entre les mains de l'ennemi. Dans notre texte qui nous intéresse ici, hein, dans 1 Corinthiens chapitre 5, versets 4 et 5, vous vous rappelez, l'apôtre Paul avait parlé, il y avait un problème dans l'église, c'était un homme qui commettait l'inceste. Vous vous rappelez de ça, 1 Corinthiens chapitre 5. Et l'apôtre Paul il reproche à l'église de ne pas avoir jugé la situation. Et il dit, moi, en mon esprit, j'ai déjà jugé. Il dit, mais vous devriez juger. Qu'un tel homme soit livré à Satan pour la destruction de la chair, afin que l'esprit soit gardé soft, quoi, au jour de Christ, quelque chose comme ça. Okay. Mais il dit qu'un tel homme soit livré à Satan. Donc, il exhorte l'église à faire cela. Hein? Et puis, et dans le passage qui est ici, bon, certains pensent que c'est lui-même qui le fait, mais on pourrait penser aussi que c'est la communauté d'Éphèse qui est amenée à le faire aussi. Et il dit, qu'il a fait aussi, il dit, il parle donc de Hyménée et de Alexandre, que lui-même il a livré, que j'ai livré aussi à Satan. Qu'est-ce que ça veut dire être livré à Satan? Ouais. L'expression, généralement, elle est comprise comme cela, c'est-à-dire c'est une excommunion, c'est une exclusion de la communion de l'Église. Cette personne est mise hors de cette communauté et donc se trouve être hors de la protection quelque part de l'Église, parce que il y a une protection quand même quand on est enfant de Dieu, qu'on se trouve dans le corps de Christ, etc., et que l'on est un membre obéissant, qu'on marche, on a cette communion. Il y a une protection qui est là. C'est un peu comme le psaume 133 dit, hein, c'est là que descend la bénédiction, etc. Il y a quelque chose que Dieu fait pour son corps rassemblé. Et donc ici, il faut comprendre le mot comme une excommunion de l'Église, de l'assemblée des croyants, afin qu'ils puissent ressentir cette faute qu'il a commise, et puis qu'ils puissent se repentir. Le but, c'est quand même la repentance ici. Vous voyez ce qu'il dit? Il dit, je les ai livrés à Satan afin qu'ils apprennent à ne pas blasphémer. Et donc, c'est quand même quelque chose qui m'a interpellé. Lorsque l'on exclut de cette manière quelqu'un de l'assemblée, pour une faute grave, hein, c'est pas n'importe quelle faute ici, hein, c'est pour une faute grave. Il dit ici c'est du blasphème. Alors ça peut être des paroles contre Dieu, contre Jésus-Christ, mais ça peut être des paroles aussi de la calomnie contre les autres, hein, parce que l'apôtre Pierre, par exemple, parle de quand il dit ayez au milieu des païens une bonne conduite, afin que là même où ils vous calomnient, comme si, je crois que le mot calomnie c'est aussi le mot blasphème, on peut utiliser le même mot. Donc ça peut être des choses dites contre Dieu, mais des choses dites aussi contre quelqu'un d'autre. Hein. Et pour ces fautes graves, donc de blasphème ou d'inceste, comme dans le cas de l'église de Corinthe, eh bien, il faut mettre les personnes là, ici hors de la communion, pour qu'ils éprouvent vraiment un châtiment. Il y a certainement un châtiment qui peut tomber, ça peut être la maladie, ça peut être autre chose. Rappelez-vous de l'église de Corinthe avec les repas qu'ils faisaient dans la Sainte-Seine, et au chapitre 11, à la fin du chapitre 11, l'apôtre Paul dit qu'il y a plusieurs qui sont malades à cause de leur attitude dans la Seine. Donc le péché et la mise hors de la communion de l'église peut entraîner des châtiments. Le fait d'être livré à Satan, ça veut dire qu'il a la possibilité de frapper d'une certaine manière. C'est quelque chose qui doit nous faire vraiment réfléchir. Et donc, le but de cela, d'être livré à Satan, c'est pas de perdre la personne, mais c'est de l'amener peut-être par les afflictions qu'elle connaîtra, à constater la profondeur de la faute qu'elle a commise, se repentir et revenir. Parce qu'il dit, il doit apprendre à ne pas blasphémer. On n'a pas besoin d'apprendre à ne pas blasphémer à quelqu'un qui est perdu. D'accord? Mais à quelqu'un qu'on veut récupérer. Et c'est toujours le sens, quand on regarde des châtiments que l'on a dans la discipline de l'Église, toujours le faire dans le but de restaurer les personnes. Donc cette excommunication, si vous voulez, intervenez dans les fautes vraiment graves, mais toujours dans le but de ramener les personnes. Voilà, donc on va pas aller plus loin, puisqu'on on s'arrête ici. Paul encourage donc Timothée, ici, hein, pour résumer, à se rappeler de sa vocation, de son appel initial, pour pouvoir travailler et continuer à travailler comme Dieu lui demande de le faire dans l'Église et de faire face à ces faux docteurs. Et il dit même ici qu'il doit le faire dans la forme avec une bonne conscience, et que ces personnes, il y en a parmi elles qui ont perdu cette bonne conscience. Et c'est pour cela qu'elles agissent comme elles agissent. Et quand c'est le cas, eh bien parfois il faut aller jusqu'à mettre hors de la communion, il faut livrer à Satan pour que ces personnes puissent revenir à leur bon sens, comme il dit dans chapitre 2, 22, je crois, et qu'ils, revenus à leur bon sens, ils se dégagent des pièges du diable et que Dieu leur donne ici la repentance. Je termine avec 3-4 points d'application. L'autorité et l'affection ne sont pas incompatibles. Hein. Donc ce qu'on voit avec Paul ici, on a vu qu'il y a un bon équilibre dans ce qu'il fait. Il peut commander avec autorité, mais en même temps avoir de l'affection. Et je pense que c'est tout un encouragement pour nous en tant que parents, par exemple, des fois. On doit faire preuve d'autorité, mais avec beaucoup d'affection à l'égard de nos enfants. De l'autorité tout seul, c'est de l'autoritarisme. Et de l'affection tout seul, sans autorité, c'est du laxisme. Okay. Il va avoir un équilibre de l'apôtre Paul ici. Quand il doit encourager son enfant, il l'encourage fermement, mais avec beaucoup d'affection. Donc c'est un encouragement pour nous aussi à agir de la même manière. On doit marcher aussi d'une manière digne de notre appel. Certes, nous ne sommes pas appelés comme l'apôtre Paul ou bien comme Timothée. Hein, on n'a pas dit, Albert, appelle-toi, les prophéties faites à ton sujet, etc. Non, il n'y a pas tout ça. Mais nous sommes tous, en tant que chrétiens, des personnes qui sont appelées. C'est comme ça que la Bible le dit. Écoutez ce que Romains 8 dit. Il dit, nous savons du reste que toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Il n'y a personne qui peut dire, je suis un chrétien, je suis venu moi tout seul. Je sais pas. Non, nous sommes appelés par Dieu, individuellement. Par Dieu. Ici, c'est important de le noter. Ceux qu'il a prédestinés, il les a aussi appelés. Et ceux qu'il a appelés, il les a justifiés. Ceux qu'il a justifiés, il les a glorifiés. Donc, quoi qu'il en soit, nous sommes exhortés, chers frères et sœurs, à marcher toujours en conformité avec notre appel. Je vous exhorte, moi le prisonnier dans le Seigneur, dit Paul, à marcher d'une manière digne de la vocation. Vocation, c'est appel. Hein. Une manière digne de la vocation qui vous a été adressée. En toute douceur, etc. Troisièmement, je voudrais aussi souligner que le combat fait partie du lot du croyant. Hein. Nous avons, la vie chrétienne n'est pas une vie de tout repos. On doit être vigilant. Et quand on cherche à être vigilant, on se rend compte qu'il faut combattre. Ce n'est pas si facile que ça de marcher chaque jour dans ce monde qui nous entoure, en tout cas, dans la sainteté comme Dieu nous le commande, il faut ce combat. Hein. Tout à l'heure, il y a un frère qui parlait de combat, de lutte d'irritation. Ben voilà, c'est le combat que l'on a à mener hein, dans notre vie de tous les jours. Et puis, quatrièmement, il faut tout faire pour maintenir une bonne conscience. Il faut tout faire pour maintenir notre bonne conscience. On doit agir avec une bonne conscience. On ne doit pas se contenter de dire « j'ai fait ce qu'il fallait faire, j'ai dit la vérité ». Non, non, il faut chercher à ce que... Si notre conscience nous condamne, on doit revenir et régler les choses. Si elle me dit « frère, tu as dit la vérité, mais tu as mal parlé, retourne et va demander pardon hein ». Il ne faut pas qu'il y ait quelque chose qui reste sous notre conscience parce que l'apôtre Paul dit « à force de faire cela, eh bien, on peut... » être un naufragé dans la foi. Quand on commence à étouffer, quelqu'un a dit, je lisais, qu'il y a la méthode rouleau compresseur pour étouffer la conscience, c'est-à-dire, elle nous informe de quelque chose, on n'y fait pas garde, et puis on ajoute des choses par-dessus, des justifications, et des ceci, des cela, et on finit par étouffer la conscience. Quand elle nous parle, elle nous dit, non, tu as mal fait, et Dieu nous parle souvent comme cela. Revenons sur nos pas, et puis réglons les choses, toujours. Et cherchons toujours à faire en sorte que, est-ce que ça c'est la bonne manière, celle-ci c'est la bonne manière, faire les choses en sorte que notre conscience soit toujours bonne dans ce que nous faisons. Et puis dernièrement, je voulais souligner que l'Église, et je voulais juste quand même dire ceci, peut-être notre conscience est-elle souillée, et on se dit, mais comment faire? J'ai des choses, la Bible dit ici quelque chose de très important, en Hébreux chapitre 9, verset 14, il dit « Si le sang des taureaux et des boucs et la cendre d'une vache répandue sur ceux qui sont souillés, sanctifie et procure la pureté de la chair, combien plus le sang de Christ, qui par un esprit éternel s'est offert lui-même sans tache à Dieu, purifiera-t-il votre conscience des œuvres mortes afin que vous serviez le Dieu vivant. Chers frères et sœurs, le sang de Christ est capable de purifier notre conscience. Notre conscience. Des fois, on dit, oui, je sais que Christ m'a pardonné. Mais il y a des choses qui, parfois, qui pèsent sur notre conscience. Il faut les régler, mais on peut venir à Christ, demander pardon pour ces choses, nous repentir. Et il dit que le sang de Christ nous purifie de tout péché, mais il purifie jusqu'à notre conscience des œuvres mortes, des choses que l'on traîne depuis longtemps, etc. Pour nous permettre de servir Dieu avec une conscience pure. Le sacrifice de Christ est efficace pour cela aussi. Donc vous pouvez venir à lui. Si vous ne le connaissez pas, vous pouvez venir à lui pour qu'il purifie aussi votre conscience. Et puis dernièrement, l'église locale doit toujours apprendre à exercer la discipline. C'est un trait particulier d'une église en bonne santé. C'est qu'elle pratique la discipline lorsque cela est nécessaire. Comme on le voit ici, concernant Alexandre et Hyménée. Et je dis une chose, on voit que Dieu est souverain et puissant dans toutes ces choses. Il est même capable d'utiliser le diable pour apprendre à des personnes à ne pas blasphémer. Il est capable d'utiliser le diable pour apprendre à Paul à ne pas s'enorgueillir. L'apôtre Paul dit, il m'a été mis une écharde dans la chair, un ange de Satan. Pour me souffleter et m'empêcher de m'enorgueillir. Dieu est tellement souverain et au contrôle de toutes choses qu'il peut même utiliser le diable pour notre propre sanctification. N'est-ce pas extraordinaire? Il y a des gens qui ont peur du diable. Non, Dieu est au contrôle de toutes choses dans la vie du croyant. Et même lorsque on peut être dans des situations où il nous afflige, eh bien, il peut utiliser le diable pour le faire, mais il l'utilise pour notre bien. Il a permis au diable d'attaquer Job, mais il lui a dit « tu ne touches pas à sa vie ». Et le diable n'a pas pu le faire. Et quelqu'un disait que lorsque le corps, les gens marchent avec Christ, eh bien, si Satan veut toucher ne serait-ce qu'un bout de cheveux d'un chrétien, il doit demander l'autorisation à Dieu. Et le Père Céleste, vous croyez qu'il va abandonner ses enfants à la merci du diable? Non. S'il y a des choses qui nous arrivent, c'est que Dieu a permis qu'elles nous arrivent. Et elles nous arrivent toujours en étant sous son plein contrôle. Voilà. C'est une grâce et c'est un encouragement pour chacun d'entre nous de ne pas avoir peur de l'ennemi, mais de rechercher néanmoins à vivre toujours dans cette vie de sanctification, de sainteté, à rechercher une bonne conscience devant Dieu et devant les hommes. Prions. Merci Seigneur notre Dieu pour ta parole qui nous encourage et je te prie que tu nous aides à vivre en conformité avec ce qui est écrit pour la gloire de ton nom. Amen.